Bienvenue sur The Thinking Gallery, le podcast qui décortique la pensée des leaders d'aujourd'hui afin d'anticiper le monde de demain. Je suis Paul Terrasson-Duvernon et je suis accompagné de mon fidèle acolyte Arthur Derderian. Vous êtes prêts? Abonnez-vous et on vous propose de plonger dès à présent dans The Thinking Gallery.
Alors, on va... je crois que c'est notre sujet aujourd'hui. Hein, c'est
ouais, on a le
conquête
temps.
Spatiale, New Space. On va dire que il a fallu un certain temps... depuis 60 ans, en fait, la conquête de l'espace est au cœur des attentions de tous les grands pays. D'abord parce qu'il a fallu une technologie qui puisse le permettre. Donc, il fallait être assez puissant technologiquement pour se lancer dans cette course à l'espace. Et là, on comprend que au tout début, ce sont des États, des grands pays qui vont se lancer. Mais je vais vous expliquer pourquoi et comment. Voilà.
Avec grand plaisir. Mais du coup, le New Space, c'est cette conquête spatiale sans le mot conquête pour pas que ça fasse trop guerre. C'est quoi?
Alors, le New Space, c'est précisément le fait qu'à un moment donné, des jeunes ingénieurs ont été suffisamment malins, véloces et ingénieux pour se lancer eux-mêmes. Et c'est le désir de faire en sorte que l'espace soit accessible au plus grand nombre.
D'accord.
J'ai dit, c'était des grosses opérations, on va dire, gouvernementales, militaires. Et puis, à un moment donné, mais je vais vous expliquer pourquoi, ce sont des firmes, des acteurs économiques, des acteurs commerciaux qui se sont lancés de toutes les tailles, on trouve des start-up, on trouve des plus grands groupes, et c'est ça qui caractérise le New Space.
Donc on s'affranchit des institutions classiques, c'est ça?
C'est-à-dire qu'on développe des marchés, on développe des potentialités, on croit, on a une espérance nouvelle, c'est plus simplement des positions d'acteurs gouvernementaux, c'est aujourd'hui une nouvelle aventure économique avec des nouveaux marchés, des nouvelles potentialités, et des nouvelles découvertes de ce qu'est la Terre et de ses potentialités. Alors, on est toujours frappé, par exemple, de voir que dans les jeunes générations, on se dit « Ah oui, mais l'espace, c'est des fusées, ça pue, ça pollue. » Alors, oui et non, mais surtout, ça va nous permettre de mieux comprendre ce qui se passe sur Terre et d'être, peut-être plus fin, plus rationnel, d'avoir des nouvelles découvertes qui vont, qui sont dans la courbe de l'humanité, le progrès de l'humanité passe par là, en fait. Donc, c'est très important.
Et pourquoi on va dans l'espace?
Alors, je vais peut-être vous redire un peu ce qui s'est passé.
Ouais, je pense que c'est important.
Voilà, le début.
Mais pourquoi on a voulu aller dans l'espace, justement?
Voilà, c'est ça.
C'est plus ça, ma question. Ouais.
Alors, le sujet, c'est que, en fait, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, tu avais deux grands acteurs, les Américains, qui ont quand même libéré l'Europe, et les Russes, qui ont eux-mêmes revendiqué le fait d'avoir participé à cette fin de la Première Guerre mondiale. Et donc, deux façons de voir les choses. À un moment donné, ces deux façons, on n'a plus voulu de la guerre. La guerre est une chose atroce, terrible pour tout le monde. Et donc, pour ne plus se faire la guerre, mais en même temps pour défendre l'idéologie qui avait prévalu, d'un côté des gens plus libéraux, et de l'autre côté des gens plus, organisés, on appelait ça le communisme, eh bien, on s'est mis à s'affronter par concept, et notamment en ayant une vision de l'espace. C'est-à-dire que on ne s'affronte plus matériellement, on s'affronte idéologiquement et en démontrant sa puissance. Alors c'est une forme d'orgueil des nations, mais globalement c'est une confrontation entre deux géants et c'est ça qui a généré le début de la conquête spatiale. Alors on retrouve ça dans les discours de Truman, de Jdanov, et cette guerre idéologique devient le terrain d'expression de cet affrontement idéologique. Je vais peut-être vous citer quelques dates, en fait. C'est peut-être ça.
Ouais,
qui est une petite chronologie, en fait. Ça me paraît très important.
Voir où on en est un peu.
Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce sont les Russes qui sont les premiers à marquer des points. Alors, en 1957, Tu as le premier exploit spatial mondial hein, qui est fait par des Soviétiques. Ils envoient une fusée R7 et ils envoient ce qu'on appelle le Spoutnik, qui est donc tout le monde connaît Spoutnik. Spoutnik, en russe, ça veut dire compagnon de voyage. Alors, en fait, à cette époque, on ne manquait pas d'humour. C'est-à-dire qu'on peut se défier avec de l'humour et avec de la technologie. Alors, je ne sais pas si c'est de l'humour ou de l'ironie, mais globalement, c'est de la défiance. Donc, Spoutnik est lancé en 57. Il tourne autour de la Terre à 900 km. Et il est tiré à partir de Baïkonour. Et puis, un ou deux ans plus tard, les Russes, toujours, envoient Spoutnik 2. Et dans ce Spoutnik 2, on met un chien, une chienne qui s'appelle Laïka. Et donc, c'est pour dire, voyez, nous, on est capable de faire des choses que personne d'autre ne fait. Voilà. Alors, les Américains, ils sont béats et ils se disent, mais il faut absolument réagir. Et donc, la réaction se fait tout de suite attendre. En 1958, les USA lancent leur premier satellite qui s'appelle Explorer 1. Et tout de suite après, Eisenhower signe le décret de création de la NASA. NASA, ça veut dire National Aeronautics and Space Administration. Donc, c'est pour dire qu'on est vraiment dans du lourd, dans du programme, et cette défiance, qui est au début une défiance idéologique, va devenir une défiance matérielle, physique, technologique. Voilà.
Mais aujourd'hui, finalement... Ça, c'était déjà, c'était il y a quelques années. Il y a 50 ans, un peu plus. Ouais. Depuis, la technologie s'est améliorée. On a justement développé ces micro-lanceurs dont tu parlais tout à l'heure. Est-ce que c'est toujours à l'ordre du jour de démontrer sa puissance en allant dans l'espace?
Alors, l'histoire se répète, en fait. Hein. On n'est pas là pour faire de la philosophie, mais l'histoire se répète. Et alors, donc, on a vu ces premières interventions, ces premiers duels entre les Russes et les Américains. Tout de suite après, tu as Kennedy, en 1962, qui lance le programme lunaire. Et puis, au même moment, tu as Yuri Gagarin, qui est le premier homme dans l'espace. Les Américains répliquent, mais avec un peu de retard, notamment avec Apollo 2, et ce sera Neil Armstrong et Edwin Aldrin qui vont mettre les premiers pas sur la Lune. Et ce qui est intéressant, c'est que ce cycle-là, entre les années 60 et les années 70-80, est en train de se répéter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez qu'on ne va plus sur la Lune depuis un certain temps, on va dire pourquoi. Aujourd'hui, les nations se posent la question de qui va être le premier sur la Lune. Et je ne veux pas vous délivrer un scoop, mais les premiers à remettre les pieds sur la Lune, ce seront les Chinois. Et donc, on voit bien que cet affrontement, ce duel, est en train de s'élargir. Et je vais vous expliquer pourquoi, mais l'espace est en train de devenir un lieu de conflictualité et de démonstration de sa puissance.
C'est une question de souveraineté.
Voilà, une question de souveraineté. Alors, les nations intelligentes ne veulent plus faire la guerre parce que c'est terrifiant. On voit bien que dans le conflit russo-ukrainien, on est encore sur des concepts anciens de guerre de tranchées. Ça fait beaucoup de morts, c'est une catastrophe. Et ceux qui ne veulent pas se lancer dans ces aventures se lancent dans des aventures technologiques. Alors c'est un démonstrateur de guerre et de puissance. Mais globalement, l'idée pour ces grandes nations, c'est d'affirmer leur puissance. Et l'espace devient un lieu de conflictualité, c'est-à-dire un lieu où on va se faire la guerre, mais de façon plus mécanique, plus électronique, à distance.
C'est vrai qu'un des concepts, des nouvelles qui m'avait le plus marqué, c'est justement le fait d'avoir renommé l'armée de l'air en armée de l'air et de l'espace. Et c'est vrai que même la création d'un service, il me semble, une Space Force aux États-Unis, ça s'inscrit dans cette logique-là.
Alors ça s'inscrit totalement dans cette logique-là. C'est-à-dire que aux États-Unis, en fait, tu as un double mouvement, c'est-à-dire que il y a une montée en puissance des acteurs technologiques. Il y a une montée en puissance. En fait, il faut juste comprendre qu'à un moment donné, vous avez eu ce qu'on appelait les vols habités avec la navette Challenger. Et puis, il y a eu un accident. où tous les astronautes de la navette ont péri, et du coup une prise de conscience que tout ça était quand même très dangereux et que le sujet n'était pas de, comment dire, de risquer la vie des humains pour aller sur des programmes lunaires. Et donc les Américains se sont retirés, ont un peu baissé la garde sur le sujet, mais ne se sont pas aperçus, ou ils n'ont pas voulu prendre conscience que les Chinois, eux, en même temps, se sont mis à développer des programmes. Et le Chinois, a une vision des choses qui est très programme, c'est-à-dire que il planifie et il exécute ce qu'il planifie. En Europe, on fait des programmes, mais on peut être un peu plus inconstant dans la réalisation de ces programmes parce qu'il y a des questions budgétaires, parce qu'il y a des questions sociétales. En Chine, on décide quelque chose, on le fait jusqu'au bout. Hein. Je veux dire, en URSS, c'était la même chose. Et donc, on sait que les Chinois seront sur la Lune dans 10 ans parce qu'ils sont en train de dérouler un programme. Et donc, pour répondre à ça, les Américains se sont rendus compte qu'ils s'étaient fait doubler dans la course à l'espace. Et donc, ils ont fait naturellement appel au secteur des acteurs commerciaux en disant, messieurs les acteurs commerciaux, on va vous transférer des subventions, on va vous financer des programmes, mais s'il vous plaît, allez plus vite que ce que nous, on est capable de faire. Et je crois que c'est ça, en fait. Le New Space, c'est aussi ça. C'est-à-dire que c'est les Américains qui prennent conscience qu'ils sont en retard et pour accélérer ce retard, il ne faut plus passer par une administration, il faut passer par des entreprises privées, par des start-up, par des gens qui vont accélérer le mouvement pour rattraper le retard sur les Chinois. C'est un peu tout ça.
Et là, on parle des Chinois, on parle des Américains, l'Europe dans tout ça.
Alors, l'Europe, on va y venir. Mais je voulais juste vous dire que donc la Chine s'est lancée dans cette aventure dans les années 80. Elle a créé sa première agence spatiale. Il y a eu un premier ministère de l'industrie spatiale en Chine. Et puis, le premier vol habité date de 2003 dans une capsule qui s'appelle le Chengdu 5. Ensuite, les fameux programmes dont je vous ai parlé, eux, se nomment Chang'e, pour être un peu à l'européenne. Et ces programmes sont en train de se dérouler. Et l'objectif du Chinois, c'est d'avoir le premier homme asiatique sur la Lune avant 10 ans. Donc, on voit bien qu'on est dans une performance, entre guillemets, d'acteurs. Et l'idée, c'est vraiment de démontrer à l'Amérique que l'Amérique n'est peut-être has-been et qu'elle n'est plus la première puissance mondiale. Donc, je vous ai décrit tout ça. Alors, vous avez aussi l'Inde. L'Inde qui, dès les années 60, a monté des programmes avec l'URSS. Mais a connu des échecs dans ses lanceurs et donc a eu des programmes plus modestes, même s'il est aujourd'hui en train de revenir. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez les Américains, les Russes, les Chinois. Mais pendant très longtemps, la France a été en pole position sur le sujet. Alors ça, c'est très, très intéressant parce que...
Pendant très longtemps, ça veut dire qu'aujourd'hui, elle ne l'est plus.
Alors, aujourd'hui, elle ne l'est plus, mais elle a été en pole position. Et alors, en fait, on doit tout ça au général de Gaulle. De Gaulle, comme vous le savez, était pour le non-alignement, c'est-à-dire qu'on ne s'aligne ni derrière les Russes, ni derrière les Américains. En termes de stratégie politique, son sujet, c'est souveraineté de la France, indépendance, autonomie, qui passe par une autonomie technologique. Donc on a ce qu'on a en France, on appelle ça la dissuasion nucléaire. On a des programmes plus tard qui arriveront en matière d'énergie sur le nucléaire. Et le spatial est une façon d'affirmer sa technologie, son autonomie et la grandeur de la France. Alors en plus, De Gaulle ne mâchait pas ses mots, c'est-à-dire que lui voyait une façon d'emmerder, et il le dit, les Russes et les Américains. Donc, vous voyez, là aussi, on est dans... c'est pas de l'humour politique, c'est vraiment un positionnement qui est de dire on existe, nous les Français, et on va vous montrer ce qu'on est capable de faire. On va pas être dépendant ni du plan Marshall, ni des programmes communistes, quoi. Donc, voilà. Alors, De Gaulle crée en 1961 Il y a le CNES qui est le Centre National d'Études Spatiales, qui est une structure qui est chargée de, on va dire, de centraliser l'ensemble des activités françaises liées à la conquête de l'espace. Et l'objectif, c'est de faire de la France une puissance spatiale. Alors, je reviens un peu à la fin de la Seconde Guerre mondiale. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, vous avez ce qu'on appelle le programme V2, notamment en Allemagne. Hein. Vous savez, ces espèces d'avions missiles qui étaient tirés sur des rampes de lancement. Et à la fin de la guerre, en fait, vous aviez en Allemagne beaucoup d'ingénieurs qui travaillaient sur ces programmes spatiaux. Donc là, la fin de la guerre est proclamée, et ces programmes sont arrêtés, mais ces ingénieurs, qui étaient des ingénieurs qui n'étaient pas forcément, qui ne partageaient pas les idées du nazisme, vont pour partie émigrer aux États-Unis et également émigrer en France, dans le sud de la France, mais également dans la région parisienne et particulièrement sur Vernon.
Ouais.
D'accord. Vous savez que Vernon est un des grands sièges de Ariane Group. Et plus tard, on va créer une première fusée qui s'appellera Véronique, qui est une fusée démonstrateur. Et Véronique, ça veut dire Vernon électronique.
Okay.
Donc, en fait, le tout début de l'aventure, c'est la fin de la guerre. C'est l'interdiction pour les Allemands d'aller dans l'aéronautique, d'aller dans le spatial. Et les vainqueurs vont pouvoir, eux, déployer des programmes aéronautiques et spatiaux. Hein. C'est ce qui a donné naissance à la maison Dassault. C'est ce qui a donné naissance à tout ce qui va devenir Ariane Group. C'est pas une victoire de guerre, mais c'est une conséquence directe de la fin de la guerre et de la capacité de la France à être technologique sur ces sujets. Alors... Donc, je vous ai parlé donc Véronique, cette première fusée est une fusée militaire qui est créée en 1954. Et on a cité tout à l'heure le choc mondial qui était le lancement du Spoutnik en 57. Vous voyez que 54-57, on n'est pas à la ramasse sur le sujet. On est vraiment,
ouais, on est
dans la compétition,
ouais.
On est dans la course. Et donc, ce sont des militaires, notamment dans les années 58, le général Guérin, qui va créer en France un haut commissariat à l'espace. Alors, la conquête spatiale, ça passe aussi par une organisation. Donc, il faut des leaders, il faut des gens qui décident, il faut des moyens financiers. Vous avez la NASA aux États-Unis et nous, on a quelque chose qui est un début d'agence spatiale et qui va devenir en 61 le CNES. Et le CNES est une organisation qui doit réunir des acteurs civils et des acteurs militaires. Et donc, on a le général Aubrière qui va prendre le lead sur le CNES et qui va obtenir des moyens financiers pour pouvoir avancer sur ce sujet-là. Et donc, on va avoir en novembre 65, la France va placer sur orbite son premier satellite. Et ce satellite s'appelle Astérix. Voilà, on a fait avec l'armée de l'air et les armées européennes et même américaines, il y a quelques mois à Toulouse, un exercice Astérix. C'est en fait se remémorer que en 65, on avait été parmi les premiers à lancer et 65 marque la puissance spatiale de la France comme troisième acteur mondial. Ce qui est quand même quelque chose de très très important, voilà.
Mais ça fait une très belle rétrospection.
Rétrospective.
Voilà. Et aujourd'hui, la France, elle est encore dans la partie ou pas?
Alors, c'est très important de comprendre ce qui s'est passé avant pour comprendre ce qui est en train de se passer. On vit une époque absolument formidable. Vous avez en France de très très bonnes écoles d'ingénieurs. On a Supaéro, on a l'Estaca, les écoles des mines ont des programmes spatiaux. En France, on forme chaque année à peu près 2000 étudiants qui vont devenir les futurs ingénieurs du spatial. Et le spatial en France est quelque chose de considérable. Vous avez de très très nombreuses start-up. dans l'informatique, dans les satellites, dans les applications, dans les lanceurs.
Et ça donc, représente à peu près combien de startups et combien d'emplois, tu sais ou pas?
Alors oui, oui, là vraiment, le secteur spatial en France, c'est à peu près 30 000 emplois.
Oui.
C'est quand même quelque chose de très très conséquent et c'est quelque chose que, comment dire, que les pouvoirs publics regardent avec grande attention parce qu'il s'agit de soutenir cette demande. Et voilà. Alors, je pense que le CNES en France, c'est à peu près 2500 personnes. C'est quand même une entreprise considérable. Alors, c'est une entreprise, c'est public. Et c'est bourré de chercheurs et de gens très intelligents. Alors, on a des points forts. Par exemple, le CNES, la France est renommée pour, c'est technique, hein, ses études sur les ondes, sur la physique de l'atmosphère, sur l'astronomie solaire, sur les champs magnétiques, sur les télécommunications, sur la télédétection des ressources naturelles, sur la construction des fusées, sur le vol habité. Alors, voilà. Claudie Agneret, que vous connaissez toutes, hein, qui est tous, cette grande astronaute française, a été médecin, a été physicienne, elle a fait très nombreuses années d'études, elle a passé quasiment 10 ans avec les spationautes russes, et donc elle a été la dernière française dans la station spatiale à faire partie d'un vol habité jusqu'en 2000 ans. Et donc, voilà. Il y a eu vraiment cette période, cette grande, grande période de, on va dire, de souveraineté technologique française. Et puis après, on s'est un peu désintéressé du spatial parce que on avait une magnifique fusée qui s'appelle Ariane 5, qui fonctionnait très bien. Et donc, on était sur des programmes commerciaux. Les Américains ne s'étaient pas encore réveillés. Et donc, il y a eu une petite période de transition là sur cette période 2000-2010.
Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. N'oubliez pas de noter ce podcast 5 étoiles sur votre plateforme préférée, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. Et surtout, si l'épisode vous a fait penser à quelqu'un, n'hésitez plus et partagez-le lui tout de suite. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet. À très vite.